Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vais vous raconter l'histoire mythique d'un bandit de l'après-guerre qui s'appelle Émile Puisson, dit Fatalitas et surtout dit Mimille. 38 hold-up et 9 meurtres en 3 ans. C'est plutôt une bonne moyenne. Un personnage tellement mythique qu'il a inspiré un film qui s'appelle Flick Story avec Trintignant dans le rôle d'Émile et Delon dans celui d'un inspecteur Borniche qui l'a arrêté. Je vous préviens, Mimille est un mythe, mais ça n'est absolument pas un héros. C'est un sale type avec du panache, certes, un style, une éducation qui l'a rendu célèbre, mais sur le fond, c'est une vraie raclure. Voici donc l'histoire d'Émile Puisson. Réalisation Boris Paczynski.
Europe 1, Christophe Ondelat.
On est en septembre 1947 et ça fait 6 ans qu'Émile est en prison. Un braquage juste avant la guerre. Le Crédit Lyonnais de Troyes, 1 800 000 francs. Joli coup. Sauf qu'il s'est fait coincer et qu'il a pris perpète. Fallait s'y attendre. Depuis le temps qu'il braque des banques et qu'il empoche des patates, il est parti pour finir sa vie derrière les barreaux de la prison de la santé. Sauf qu'il a un plan, Mimille. Il a toujours un plan. Ça fait 3 mois qu'il joue les foldingues devant les docteurs de la tôle. Oh, ça remonte. Oh, ça redescend. Oh, ça brûle. Oh, ça remonte. Oh, ça redescend. J'ai une bête là-dedans, j'ai une bête. Et à force, eh bien les médecins de la santé ont fini par le transférer à l'hôpital pour les zinzins de Villejuif en banlieue parisienne. Pour la suite, tout est prévu. Le 2 septembre 1947, à 10h du matin, une traction avant se gare le long du mur d'enceinte de l'hôpital. Émile est dans la cour. Et soudain, il voit une tête dépasser au-dessus du mur. Il les attendait. Ils sont là. Hé, hey, Mimille, t'es prêt ? Comme prévu, la tête lui jette un revolver. Et Émile Puisson, vrai gangster et faux cinglé, saute dessus. Personne ne bouge. Vous m'entendez ? Personne ne bouge. Je m'arrache. 3 mois qu'il prépare ce coup-là. 3 mois qu'il joue les louvetingues pour se faire transférer ici. Un hôpital, c'est forcément moins surveillé que la santé. Et maintenant, il va pouvoir se faire la belle, en 3 coups de cuillère à peau. Et hop, ses complices jettent une échelle de corde le long du mur. Et hop, Mimille escalade le mur. Il emmène avec lui 2 copains qui eux aussi se sont fait passer pour des barjots. Roger Decker et René Girier dit René Lacan. Et hop, les voilà dehors. Bien joué, Mimille, bien joué. Les voilà libres tous les 3. Sauf que quelques kilomètres plus loin, Émile fait arrêter la caisse. Et il dit à René Lacan,
« Toi, t'es pas comme moi, hein? T'es trop tendre. Tu descends tout de suite. »
Il est comme ça, Mimille. Quand il a quelqu'un dans le nez, il fait pas de quartier. Au siège de la Sûreté, à Paris, le commissaire Chenevier du groupe de répression du banditisme apprend l'évasion d'Émile Puisson par un téléx.
Patron, patron, Émile Puisson s'est évadé.
Évadé ? Oh putain ! Putain, c'est pas vrai ! Il est dehors !
Il le connaît, le bonhomme. Il l'a déjà arrêté. Il sait que c'est pas un tendre, Mimi. C'est pas un romantique. Il n'a pas de cœur. À la place, il a de la pierre. Pour le pognon, il n'hésitera pas à dézinguer. Et du pognon, maintenant qu'il est dehors, va lui en falloir. Et pour en avoir, il connaît que le braquage. Sauf qu'il n'est pas le seul sur le coup. Depuis la fin de la guerre, c'est le sport à la mode. Les 4 premiers mois de 1947, il y a eu, tenez-vous bien, 351 braquages, rien qu'à Paris. Et entre nous, les flics sont à la ramasse, complet. Vieille voiture, mal armée, pas de radio. Les marlots ont même cambriolé la brigade financière. C'est dire si les cognes sont largués. Sauf que le ministre de l'Intérieur, Jules Moque, en a ras la casquette.
Ça suffit. Alors vous vous débrouillez comme vous voulez. Tout doit s'arrêter.
Et c'est là qu'Émile Buisson revient sur le marché. Il va devoir se faire un trou, et ça promet. Sept jours après son évasion, Émile Buisson et sa bande débarquent à l'auberge d'Arbois, un restaurant chic de la rue Le Sueur à Paris.
Bien le bonjour, monsieur dame. Vous allez vider vos poches, hein, et vous mettez tout dans ce sac. L'argent, les montres, les bijoux, tout.
Vite fait, bien fait, Émile et ses gars sortent du restaurant. Et là arrivent deux motos de police. La première, boum! Un coup de traction avant et elle est par terre. Et la deuxième, ta 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 ta, il la sulfate. Et voilà, c'est réglé. Même si ça laisse un flic sur le carreau. Ça va leur valoir des ennuis. On verra bien. De retour à la planque, vient le moment du partage. Et là, Émile s'aperçoit qu'un bijou a disparu.
Quel salopard qui a tapé dans la caisse!
Émile soupçonne tout de suite Henri. Henri Russac.
C'est pas moi, Émile. Je te jure.
Faut pas jurer. Et surtout, faut pas l'embrouiller, Émile. Faut pas l'embrouiller. Le lendemain, il le dégomme au coin d'un bois. Une balle dans la nuque. Sauf qu'on retrouve le bijou. Il avait roulé sous la table.
Eh ben, je m'en fous. Ce gars, de toute façon, il avait une tête de balance.
Ça fera office d'oraison funèbre. Le problème, c'est que quelques jours plus tard, son collègue Roger Decker, qui s'est évadé avec lui, se fait serrer. Balancé par un indique, c'est ce qu'on dit. Ça tombe mal. Mimil doit se refaire une bande. Et ça se bouscule pas au portillon pour bosser avec lui. Il fiche la trouille à pas mal de monde.
Mimil ?
Ah non, pas question. Il est dingue, Mimil. Si ta tête lui revient pas, il te descend. Il y en a qui l'appellent Fatalitas, celui qui porte malheur. Mais bon, il trouve quand même des gars pour bosser avec lui. Parce que tout de même, il a un sacré pédigré. Il a tout fait. Les bagnes d'enfants, les bataillons disciplinaires et la prison, bien sûr. Le dernier jour de son service militaire, il a balancé un coup de baïonnette à son sergent.
Crève ! Charogne !
Le métier ? Le métier, il l'a appris avec Charlot les Grands Pieds, son mentor. C'est avec lui qu'il a fait le hold-up de Troyes, en 37, avant la guerre. Sacré coup, hein ? Un fourgon blindé devant la Banque de France de Troyes. En pleine ville, en plein jour, en moins d'une minute, 1 800 000 francs. Ça vous fait une réputation, ça. C'est pas une réputation de demi-sel. Une réputation de cador. C'est depuis ce jour-là qu'il a aux fesses le commissaire Chenevier de la Sûreté. La guerre est passée, mais Chenevier ne l'a pas oublié. À la tête des groupes de répression du banditisme, il est prêt à tout pour l'arrêter. D'autant qu'il vient de tuer un flic.
Je le connais, Mimil. Il est plus froid que la mort. Ça va être un carnage.
À la fin des années 40, Émile Buisson est l'ennemi public numéro 1. Depuis qu'il a tué un cogne à l'auberge d'Arbois, Émile Buisson n'arrive plus à avoir une bande stable. Il sent le souffle. Il est obligé de changer d'équipe à chaque coup, ou presque. Et lui ne fait plus confiance à personne. Sa chance à lui, c'est qu'il est presque invisible. Il fait tout pauvre, hein. Petit, fin. Il s'habille comme un notaire. Rasé de près, costume sombre, chemise blanche, cravate, chapeau noir à petit rebord. Un bourgeois. Et pour parfaire la dégaine, il lit le Figaro.
Ah bah oui, un type qui lit le Figaro, on le contrôle pas.
Et donc, il se met à déjeuner régulièrement à la rôtisserie Périgourdine, à deux pas du 36 quai des Orfèvres. Il est tranquille, il n'existe aucune photo de lui. Les flics ne peuvent pas savoir que c'est lui. Et il est aussi de toutes les grandes soirées de boxe. Et pas au milieu des gradins. En bas, au bord du ring, aux places les plus chères. À part ça, il change souvent de planque. Et quand il la quitte, il laisse toujours une semaine de loyer d'avance dans une enveloppe. Ça lui permet de gagner du temps. Et un jour, lors d'une descente de poulet dans une planque qui vient de quitter Quai Blériot, la concierge tombe de l'armoire.
Le monsieur du troisième, un bandit, ah, vous devez faire erreur.
Une erreur, la Bignole, tu crois? Les poulets trouvent une grenade planquée juste au-dessus de la chasse d'eau. Pendant ce temps-là, pour Buisson, la routine. Banque, poste, encaisseur, fourgon blindé, le tout à un rythme soutenu. Au moins un hold-up par mois. Et souvent deux, avec un sens du détail qui le rend unique. Les braqueurs, en ce temps-là, utilisent des tractions avant. Eh ben, pas lui.
C'est Chignol, là. Tu connais le dicton, hein? Traction avant, police derrière. Ça sent le marlou, les bagnoles comme ça. C'est le seul moyen de se faire repérer. Moi, je préfère les Peugeot 202. C'est beaucoup plus discret.
En tout cas, ça lui permet de passer les années 1948 et 49 sans être inquiété. Et je vous le redis, son avantage, c'est que les policiers n'ont aucune photo de lui. Juste une description, toujours la même. Un petit homme aux cheveux noirs et au regard perçant qui glace le sang. Faut quand même que je vous dise un truc. Mémile profite aussi un peu de la guerre des polices. La guéguerre que se livrent le commissaire Chenevier, des brigades mobiles, et le commissaire Pinault, de la brigade criminelle du 36 Quai des Orfèvres. Ils courent après lui, chacun dans leur coin. Le premier qui l'arrêtera aura gagné. Ça divise les moyens par deux, mais l'avantage, c'est que ça motive. Début 49, Émile Buisson manque de se faire serrer rue Bichat, au 57. Mes locataires trouvaient leur voisin un peu louche. Alors ils ont appelé les flics et toute la bande est arrêtée. Sauf Émile. Parce que lui, il s'est caché sur le toit, derrière une cheminée. Il a le cul bordé de nouilles, Mimile. Il y a de la veine que pour la canaille. Sauf que maintenant, ah ben, il doit se remonter une équipe. C'est avec elle que le 21 mai 1949, il monte sur un braquage en banlieue. En Peugeot 202. Ça va de soi. Sauf qu'à la hauteur du Plessis Robinson, la voiture fait une embardée. Et pour cause, on a tiré à l'intérieur. Buisson est au volant et il voit son voisin de droite sur le fauteuil passager s'effondrer sous ses yeux. Mort. La faute à ce crétin de Désiré sur la banquette arrière. Une fausse manœuvre. Oh, mais je te jure, Émile, c'est un accident. Le poissonnier, il s'est tué tout seul. Tête bien. Peut-être bien. Mais maintenant, va falloir que tu verses une pension à sa veuve. T'entends? Il n'y a pas intérêt à ce qu'il manque un centime. T'entends? Mais Mimi a dû se raviser. Parce que quelques jours plus tard, on retrouve le cadavre de Désiré, une bastos dans la mâchoire. Vous avez compris, je suppose, pourquoi dans le milieu, on l'appelle Fatalitas. Il porte la poisse à tous ceux qui travaillent avec lui. Quand il ne les tue pas, ils se font arrêter. Pas lui, hein. Eux. Et c'est encore ce qui se passe au début de l'année 1950. Les flics du 36 coincent toute la bande dans un hôtel de Saint-Mandé. Toute la bande, sauf lui. Il est parti une demi-heure plus tôt. C'est rageant. Et évidemment, ceux qui se sont fait arrêter se font cuisiner. À l'ancienne, à coups de mornif. Ils sortent la machine à bave. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux balance.
Je vais vous dérouiller. Ils se planquent dans une auberge de Saint-Vrain.
Les poulets débarquent illico à l'auberge. Sauf que l'autre est parti depuis 8 jours. Et le patron n'en revient pas.
Un bandit, ce monsieur si correct? Mais c'est pas possible.
Une autre fois, les poulets savent qu'il a besoin d'hommes. Alors ils lui envoient un indique. lequel indique, finit par avoir un rencard avec lui au Jardin des Plantes à Paris. Mais quand il arrive sur place, Mimi a le tarin qui frétille. Ça sent la flicaille à 100 mètres des types comme lui. Il sent tout de suite que c'est un piège. Alors il se carapate. Au siège de la sûreté, le commissaire Chenevier est remonté comme une pendule. Et le voilà qui échafaude un plan.
Si j'étais Mimille, qu'est-ce que je ferais? J'achèterais d'abord une bonne plan. Et ensuite, je tâcherais de me dégoter une voiture et un complice pour monter sur un coup.
D'accord, patron, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on en fait de ça?
Eh ben, on va lui fournir une planque, hein? Et une voiture et un complice.
Borniche, vous qui connaissez bien le milieu, trouvez-moi un complice de Buisson qui est en tôle. Un type dont il se méfiera pas.
Pourquoi pas le petit Roger?
Roger Decker.
Il s'est évadé avec lui, et je pense que c'est un gars qui fait confiance.
Mais qu'est-ce que vous avez en tête exactement, patron?
Eh ben, on va lui coller un mouton dans sa cellule, au petit Roger. Hein? Un type à nous, un addict qui nous veut que du bien.
Là, j'ai une idée, patron. Freddy. Freddy, il nous doit bien ça, Freddy.
Excellente idée, Borniche. Freddy. Donc son but, c'est de gagner la confiance du petit Roger. Il va lui dire qu'il veut bosser pour Buisson. Et qu'il a besoin d'un petit paplard, quoi. Comme une recommandation, vous voyez. Un truc qu'il pourra montrer à Buisson pour le rassurer.
Et ça marche. Au bout de quelques semaines, Freddy, qui partage désormais sa cellule avec Roger Decker, obtient le précieux sésame, une recommandation auprès de Monsieur Émile. Et là, ça enchaîne. Pour commencer, le commissaire fournit à Freddy une Peugeot 202, un Colt 45 et surtout une planque.
Écoute-moi bien, Freddy. Voilà ce que tu vas faire. Tu décroches un rendez-vous avec Émile. Et si demain, tu lui dis que tu as une planque. Une auberge, à Chaville en Normandie, la mer Audue. Le patron est un ami. Et dès que Buisson est installé là-bas, tu m'appelles. Je te préviens, hein, Freddy. Tu me la fais pas à l'envers. J'ai pas beaucoup d'humour en ce moment, hein, Freddy.
Et ensuite, ça se passe comme sur des roulettes. Freddy se fait recruter par Buisson. Et Mimille se retrouve avec une Peugeot 202, un Colt 45... et surtout avec une chambre en pension complète chez la mère Audu.
Qu'est-ce qu'on fait, patron? On y va tout de suite?
On va le laisser se détendre. T'as un nerveux, hein, Mimille?
Il flaire les flics à 1 kilomètre.
Laissons-le souffler un peu et baisser la garde.
Au bout de quelques jours, Buisson prend ses repas avec le patron de l'auberge, dans la cuisine. C'est dire s'il est détendu. Le 10 juin, c'est le jour J. Et voilà le plan du commissaire Chenevier. C'est un plan audacieux, très risqué, et même un peu louvetard.
Bon, Borniche, voilà comment ça va se passer. Ce midi, vous allez déjeuner à l'auberge. Et vous vous faites passer pour un Pékin. Vous y allez avec maman.
Vous voulez dire ma femme, patron?
Exactement, Madame Borniche. Si vous réussissez le coup, vous serez célèbre. Et elle en profitera. Gilard viendra avec vous. Il jouera l'un de vos amis. Et attention, vous vous faites discret comme des souris. Vous le regardez du coin de l'œil, mais pas plus. Et quand vous sentez que c'est le moment, eh ben vous lui sautez dessus. Mais attention, il a forcément un flingue. Inspecteur Borniche, la gloire de la sûreté repose sur vos épaules.
Et voilà donc l'inspecteur Borniche, Bobonne et le commissaire Gillard qui débarquent à l'auberge. En deux lait, s'il vous plaît. Une voiture de Bourgogne. Ils entrent tous les trois dans l'auberge. Ils s'installent à table. Comme prévu, Buisson est dans la cuisine, comme tous les jours depuis qu'il fait ami-ami avec le patron. Et du coin de l'œil, Borniche voit tout de suite qu'il est sur ses gardes. Il ne lâche pas la salle des yeux. Il scrute chaque arrivant. Alors le trio donne le change. Les borniches jouent les amoureux, et ça parle, et ça rit, et pour l'instant, ça passe. Et maintenant, il faut improviser, et surtout pas se planter.
Mademoiselle, est-ce qu'il est possible de téléphoner ?
Je suis médecin, et il faut que j'appelle ma clinique à Deauville.
Oh, mais bien entendu, monsieur. Le téléphone est juste là, derrière.
Borniche a repéré que pour aller téléphoner, il doit frôler Mimi. Quand il passe devant lui, l'autre le remonte du regard des pieds jusqu'à la tête. Il a la main sous la table, il a son flingue, c'est sûr.
Allô ? Mademoiselle ?
Passez-moi le 432 à Deauville, je vous prie.
Allô ? Allô, ici le docteur André. Dites-moi, je suis en route avec ma femme et un ami. Je serai en retard. Hein. Ne m'attendez pas pour les visites. Hein. D'accord ? Merci.
Et quand il raccroche, ça va très vite. Borniche Saint-Urbuisson et ses bobonnes qui lui apportent les menottes.
T'es fait comme un rat, Mimi. Comme un rat. Et tu bouges pas, hein. Sans quoi ça va être ta fête.
Et c'est comme ça que s'achève la cavale de Fatalitas. Pendant ce temps-là, le commissaire Gillard sort de l'auberge et il donne un grand coup de sifflet. Pour prévenir le commissaire Chenevier, qui est planqué pas loin, qu'ils ont coincé Mimine. Chenevier entre dans l'auberge.
Commissaire, c'est donc vous. Je dis bravo. Moi, payez-moi un digestif pour fêter ça.
Vous n'avez même pas eu le temps de finir vos fraises, Buisson.
C'est dommage. C'est moi qui les ai cueillis ce matin.
Il n'est pas présent cueillir des fraises. Il est plutôt programmé pour cueillir des pissenlits par la racine, si vous voyez ce que je veux dire. La tête légèrement détachée du corps. Parce qu'entre nous, avec ce qu'il a fait, ce qu'il attend, c'est la guillotine. Et donc Chenevier a ramené Émile Buisson au siège de la Sûreté à Paris, rue des Saussets. Et bien sûr, à l'arrivée, il a convoqué quelques photographes. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. C'est Émile Buisson, tout de même. On n'en croise pas tous les jours des gars comme lui. Et donc à l'arrivée, c'est le festival de Cannes. Et le lendemain, la presse est dithyrambique. Le commissaire Chenevier est surnommé le premier flic de France. Et il y en a à qui ça retourne les tripes. Ça, je peux vous le dire. Les gars du 36 qui est des orfèvres, ils en ont au gros sur la patate. Un coup comme ça, ça rend jaloux. D'autant que Chenevier a décidé de raconter des cracks. Officiellement pour protéger son ami aubergiste et son indicateur. Je suis heureux de vous annoncer qu'Émile Buisson a été interpellé par la Sûreté dans l'établissement Les Trois Obus à la porte de Saint-Cloud. Oh le menteur! Il invente ça pour faire bisquer les gars du 36. Parce que la porte de Saint-Cloud, c'est en plein dans leur territoire. Et évidemment, Chenevier ne parle pas de la présence de Madame Borniche. Parce que côté procédure, c'est moyen-moyen. Et maintenant, eh bien à table, Monsieur Buisson. Et bien sûr, c'est le commissaire Chenevier en personne qui va se charger de l'interrogatoire. Avec un rituel qui se répète pendant plusieurs jours.
Buisson, allez, c'est parti. Le patron vous attend dans son bureau.
Buisson entre dans le burlingue de Chenevier. On lui enlève les pinces.
Dites-moi, commissaire, je pourrais lire le Figaro avant de commencer ?
Et tous les jours, le commissaire Chenevier dit oui et il lui tend le Figaro. Il faut dire qu'en échange, depuis son arrestation, Buisson est très bavard. Un vrai moulin. Il balance tout le monde.
Hé, il n'y a pas de raison que je plonge tout seul.
Avant, sa devise était plus glorieuse.
Moi, je parle qu'à Dieu. Car lui, au moins, c'est pas une donneuse.
Il a changé, Mimile. Il faut dire que son avenir est sombre. Il sait que c'est fini. Il sait que, sauf miracle, on va lui trancher la tête. Alors il lâche les freins.
Vous savez, Chenevier, mes vieux, ils sont morts d'un ragot. D'un ragot, tous les deux.
Et moi, parfois, je parle à mon revolver. Comme un dingo, moi aussi. J'ai eu la vie que je méritais, Chenier. Mais elle n'a pas été belle.
En revanche, quand il parle de Freddy, l'addict qui l'a fait tomber, il est beaucoup moins romantique.
Ah, celui-là, si je le tenais, je lui couperais le cou avec une scie et je m'arrêterais souvent. Juste pour l'entendre gueuler.
Et ça continue chez le juge. Mimi le balance ses gars un par un. En même temps, il ne prend pas beaucoup de risques. Hein. Il n'est pas prêt de les revoir. Il balance même un gars avec lequel il a braqué le Crédit Industriel de Troyes avant la guerre. Courjibé, dit Gibus. Le gars s'est enfui aux États-Unis. Eh bien, grâce à Buisson, un matin, le Gibus voit les flics à Merloc débarquer chez lui. Et ils le mettent dans un bateau pour la France, où il prend 50 cabanes. Il faut plus de 3 ans au juge pour boucler le dossier Buisson. 1000 procès-verbaux. Buisson est inculpé pour 36 affaires. On lui colle 9 meurtres. Mais lui n'en reconnaît aucun.
Mais j'ai pas de sang sur les mains, je vous le dis, monsieur le juge.
Sauf qu'au cours des 2 procès qui se déroulent en février et mai 1954, il n'arrive pas à en convaincre les jurés. Et à la fin, sans surprise, il est condamné à la peine capitale. Le 28 février 1956 à l'aube, on vient le chercher dans sa cellule pour le conduire à la guillotine.
Mais attendez, j'ai des révélations à faire. Mais attendez, je vous ai pas tout dit.
Le commissaire Chenevier ne s'est pas déplacé pour voir tomber sa tête.
Mon travail, c'est d'arrêter les voyous. Hein. C'est pas de les regarder mourir.
Le bourreau lui colle la tête sous la lame.
Vous allez voir mourir un innocent.
Et voilà. C'est fini, Mimil.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.